Concernant les perspectives et l'enseignement des sciences contemporaines, j'ai travaillé un petit peu par emboîtement, si je puis dire, et je me semblait que c'était important de remettre aussi les perspectives générales et pas forcément que sur les sciences, pour bien voir qu'on est actuellement quand même sur une période de transformation importante. Joël, hier, vous avez parlé des années 60, la modernité, Spoutnik, etc. Ici, pour d'autres raisons, la mondialisation, etc., on est aussi probablement sur une période importante concernant les sciences, mais concernant aussi l'éducation, avec une forme d'internationalisation, la construction de l'Europe, etc. Donc, par rapport à ça, je vous ai mis à partir d'un ensemble de références qui font un petit peu des synthèses, aussi bien d'un point de vue européen que d'un point de vue le rapport NECID, ou des rapports d'expertise plutôt européens par rapport à ça. Toutes les ensembles de problèmes et de perspectives concernant l'éducation et la formation. Avec le long life learning, l'éducation pour tous tout au long de la vie, c'est vrai que du coup, ça pose des questions, puisque en fait, de plus en plus, on a à considérer le scolaire par rapport au non-scolaire. Et puis sur les reprises d'études, la formation, etc. Donc avec toutes les questions prévention des sorties sans qualification ou diplôme, équité en termes d'orientation, apprentissage tout au long de la vie, évolution démographique et questions des migrations, les questions d'inclusion, l'éducation préscolaire et la redéfinition du rôle de l'université. Voici un ensemble donc je vous dis, c'est là d'un point de vue éducation et formation, un ensemble de problèmes qui sont importantes pour l'Europe et en particulier pour la France, avec des adaptations et des par rapport aux particularités de la France, ou aux spécificités plutôt, particularités. Alors, au niveau des nouvelles modalités d'enseignement, on retrouve des questions, en particulier via les nouveaux environnements d'apprentissage, reviennent les questions d'individualisation, excusez-moi, c'est difficile le matin. J'y reviendrai avec l'importance donnée au pilotage par les résultats, le développement des évaluations internationales type PISA pour les sciences, le socle commun qui effectivement aussi on doit valider un ensemble de compétences. Donc l'évaluation, les formes, les fonctions de l'évaluation prennent de l'importance. Et qui voulait à ce que, du coup, par rapport à l'évaluation, on revienne aussi sur les questions de pédagogie différenciée ou d'individualisation et de réussite de tous les élèves, c'est-à-dire une prise en charge vraiment remise en avant, une réussite en charge pour les élèves, en sachant qu'en France, vous savez, par rapport à PISA, on a une difficulté, c'est qu'on a une proportion plus importante qu'ailleurs d'élèves en grande difficulté. Quand on dit la France n'est pas bien classée, etc., la difficulté principale, c'est qu'il y a un nombre plus important que dans d'autres pays d'élèves en grande difficulté. Et donc, qu'est-ce que l'on fait pour ces élèves-là, troisième grand thème, ce sont les reconfigurations de curriculum, en particulier pour la scolarité obligatoire. Alors, l'idée de scolarité obligatoire serait intéressante à travailler, mais bon, peut-être qu'on en discutera cet après-midi. Alors, puisqu'en fait, on est là, avec en sciences, on est sur des éventuellement aussi bien avec le socle commun qui rapproche des perspectives d'éducation scientifique dans un pilier, que l'expérimentation. Alors, les thèmes de convergence, on l'avait juste évoqué, qui étaient des rapprochements de par thématique de discipline. L'expérimentation de IST, qui est une forme d'expérimentation est-ce que c'est une reconfiguration une réflexion sur peut-être une reconfiguration des sciences par rapport le début du collège par rapport à la fin du collège. Bon, tout ça, on en rediscutera. Mais ce qu'il y a aussi, c'est la mise en avant au niveau international des approches par compétences. Et donc, du coup, la modification que ça peut entraîner sur même la façon dont les disciplines sont élaborées, sont conçues. Les questions d'éducation aux médias, d'éducation informelle, et tout ce qui est les questions d'éducation à la prise en charge par l'éducation de perspectives non disciplinaires d'éducation à la santé, d'éducation à la citoyenneté, d'éducation au développement durable, et des contributions éventuellement de discipline à ces éducations. Voilà, alors, tout petit contexte, ça, je vous rappelle rien, mais en France, actuellement, puisque du coup, ça dépend des pays, on a un curriculum à compartimentation progressive, avec, à l'école primaire, on n'a pas vraiment de discipline, hein, on a des domaines d'études, on n'a pas de discipline, puisqu'il n'y a pas des enseignants spécialisés de discipline, on a une compartimentation progressive de découverte du monde vers sciences et technologies, et qui, avec une perspective disciplinaire au collège, de disciplines avec des enseignants spécialisés, enfin on l'a dit, avec donc de sciences de la vie de la Terre, de physique chimie, de technologie. Alors avec des modifications, parce que tout ça quand même bouge, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'enseignants, éventuellement au cycle 3, on voit de plus en plus d'écoles primaires dans lesquelles il y a des intervenants, des enseignants qui prennent en charge de manière un peu plus spécialisée les domaines de sciences et technologies de l'ensemble de l'école. Hein. Donc il y a une forme de, parfois un peu de secondarisation du primaire. Et puis, inversement, on pourrait se poser la question si une forme de, par exemple, l'enseignement intégré de sciences et technologies, est-ce que le I d'intégré, est-ce que c'est le I d'intégré ou le I plutôt de non encore différenciation, est quelque chose, une forme de prise en charge plus globale, une forme de début de primarisation du secondaire. C'est dans les deux sens hein, qu'on pourrait se poser la question. De ce curriculum en changement au niveau de la France. Alors, le contexte en France, l'enseignement du primaire est considéré comme polyvalent. Moi, je le mets entre guillemets parce que je préfère... polyvalent, ça veut dire que souvent, ça peut être pris comme un ensemble de disciplines. Or, les disciplines du primaire sont des domaines d'études, ce ne sont pas des disciplines telles qu'on les entend en secondaire. Et souvent, moi, je préfère dire que l'enseignement du primaire n'est pas un polyvalent, mais un spécialiste, comme un spécialiste scolaire, mais un spécialiste des apprentissages des jeunes élèves et un spécialiste de l'apprentissage du français. C'est-à-dire que la mission principale d'un professeur d'école est quand même tout d'abord dans la maîtrise de la langue. Hein, et puis, des apprentissages dans différents domaines d'études, en mathématiques, en sciences, voilà. Et avec une spécialité aussi d'articuler ces domaines d'études. Les enseignants du secondaire, on le dit, spécialisent une discipline. Alors, il serait intéressant, je ne vais pas le faire ici, de comparer comment se fait cette répartition. Au niveau européen, il y a des pays en Europe où il y a des enseignants de collège et des enseignants de lycée qui ont des formations différentes. En France, l'histoire et puis les choix qui ont été faits sont différents, c'est qu'on a des enseignants du secondaire, des enseignants professeurs de lycée et de collège qui peuvent donc être appelés à enseigner aussi bien au lycée qu'au collège. Ça a des conséquences sur la formation, ça a des conséquences sur le recrutement, etc. C'est un choix qui a été fait et qui est dit spécialiste d'une discipline. On ne reviendra pas dessus de ce qu'on appelle une discipline, puisqu'en fait, ce sont des disciplines scolaires qui ne sont pas simplement des réductions de disciplines académiques. On a parlé hier de la difficile trouver la place des aspects plus technologiques. Et puis, effectivement, du coup, même, on voit bien qu'une discipline scolaire, ça regroupe déjà plusieurs champs de disciplines scientifiques. Même s'il y a spécialiste d'une discipline, dans ce terme de discipline, il y a déjà des cohérences qui sont assurées dans les champs, par exemple, en sciences de la vie et de la Terre, effectivement, il y a eu un article dans Aster de Denise et Christian Orange justifiant l'intérêt épistémologique d'avoir la géologie et puis les sciences de la vie rassemblées dans le sens de la vie et de la Terre. Effectivement, mais il pourrait très bien y avoir dans d'autres pays, c'est plutôt sciences de la vie et chimie qui sont rapprochées. Et puis, la géologie avec la géographie. Donc, il y a effectivement, du coup, des intérêts, mais aussi des contraintes par rapport à ces regroupements. On a vu hier que par rapport à un pilier scientifique qui rapprochait de la physique chimie, de la technologie et des mathématiques, la méconnaissance qu'avaient les enseignants des disciplines voisines. Hein, donc c'est pas gagné. C'est-à-dire que, du coup, il y a un travail pour que les enseignants déjà collaborent et travaillent dans un même domaine, mais après sur un domaine élargi, c'est les habitudes de travail collaboratif des enseignants, c'est sans doute une partie du métier d'enseignant qui va bouger de manière plus importante. Alors, les modifications curriculaires, on les a un petit peu évoquées hier, là, c'est pour remettre les perspectives. Il y a déjà eu un ensemble de, Joël, vous les avez représentés, un ensemble de dispositifs qui avaient pour but de justement d'essayer de couper ces compartimentations strictes, d'essayer de faire, d'introduire un peu de pluridisciplinarité plutôt que, c'est plutôt que de l'interdisciplinarité, c'est plutôt généralement de rassembler les disciplines, donc les parcours croisés, les itinéraires de découverte, les DPE, donc un ensemble de dispositifs, mais qui généralement étaient restés marginaux, ces dispositifs. Ça ne changeait pas le cœur des enseignements. Bon, les thèmes de convergence qui sont plutôt une finalité, mais sur le terrain, il me semble que ça, c'est pas quelque chose qui soit très porteur pour le moment. Hein, donc ça reste un petit peu des thématiques au niveau des enseignants, ils s'en apparent pas de manière importante. Alors cette expérimentation d'enseignement intégré de sciences et technologies au collège, qui est donc là une visée d'intégration a priori et non pas de visée intégratrice telle que pouvaient l'être les thèmes de convergence. Les thèmes de convergence ont une visée d'intégration entre disciplines, tandis qu'ici dans l'enseignement intégré, c'est effectivement d'envisager un ensemble ou intégré ou indifférencié. Et dans le socle commun une connaissance, des compétences, finalement se pose la question d'un ensemble de disciplines qui vont contribuer à une validation de compétences. Et donc là, on retombe sur la reconfiguration et l'importance de l'évaluation qui passera sur les évaluations de compétences. Et c'est donc quelque chose qui change par rapport à ce que les enseignants pouvaient connaître pour le moment. Alors, par rapport à ça, les enjeux éducatifs et théoriques actuels par rapport à toutes ces modifications actuelles. Les questions des spécialités des enseignants de sciences et technologies, donc par rapport à leur spécialité en tant que les associations de spécialistes, par exemple la PBG, l'Union des physiciens, les technologues, c'est l'AET, c'est ça ?
Aztec,
enfin bon. Alors, spécialité dans le sens de champ de responsabilité et d'intervention au niveau d'un établissement scolaire. J'y reviendrai, Joël, puisque effectivement il a un petit peu travaillé cette question de spécialité et nous, on le continue sur à l'UMR STEF. C'est pas simplement alors il y a la responsabilité par rapport à des contenus spécifiques, par rapport à une forme, mais il y a du coup, d'un point de vue social, un corps spécialisé, il y a des corps d'inspection, il y a une organisation. Il y a parfois aussi des identités, là on bascule sur la sociologie, mais c'est aussi ce qui se passe au niveau d'un établissement scolaire, c'est-à-dire qu'il y a des prises de responsabilité, donc c'est pas seulement ce qui se passe dans la classe. Par exemple, le professeur de technologie souvent avait aussi des responsabilités de maintien du parc informatique, vous voyez, sur des... Alors, ce que je vous ai dit, de plus en plus les questions de travail conjoint, collaboratif des enseignants, comment finalement l'équipe enseignante est de plus en plus sollicitée au niveau un élément qui apparaît de plus en plus au niveau du système éducatif, c'est l'établissement scolaire, plus que la classe. C'est-à-dire de plus en plus, c'est l'établissement, c'est tout ce qui va se passer au niveau de régulation, au niveau de l'établissement, plus que l'enseignant dans sa classe qui sera à prendre en compte. Au niveau de la scolarité obligatoire, hein. Donc, tout ce qui est les enjeux d'informatisation sur les contenus, les professionnalités, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et puis, les implications des évolutions scientifiques et techniques, comment elles sont prises en charge dans les domaines scientifiques et techniques pour permettre une certaine correspondance des évolutions des domaines technosciences par rapport à ce qui est proposé à l'école. Pour reprendre par rapport à Joël, est-ce que c'est plus pertinent de faire lampe ampoule actuellement par rapport à d'autres technologies, c'est-à-dire du coup qu'est-ce que l'on donne, qu'est-ce que l'on fait rentrer dans l'école qui soit en correspondance avec le monde scientifique et social. Alors, donc, petit bilan, contexte actuel pour le travail de la GIEL, le rapprochement des disciplines via les piliers, l'importance des compétences qui sont mises en avant et donc à la fois dans leur complexité et dans les mises en situation, l'importance du pilotage par les résultats, comment, et donc ça, c'est les conséquences que ça a sur les interventions enseignantes. Il faut pas confondre, si vous voulez, du coup, les évaluations pour les apprentissages ou les évaluations des apprentissages. Hein. Donc, du coup, par exemple, on s'aperçoit les langues vivantes qui sont plus en avance que sont les sciences sur les évaluations des compétences, parce qu'ils ont déjà tout un cadre commun avec des paliers, etc. Une des conséquences un peu imprévues, c'est que les enseignants confondent les objectifs et les finalités avec les contenus d'enseignants. Et donc, du coup, leurs évaluations, leur travail deviennent des travaillant. Ils font les évaluations d'apprentissage constamment au lieu de pour les apprentissages. Donc, il y a des effets comme ça sur lesquels l'exemple des langues vivantes peut être intéressante. Le socle commun de connaissances et de compétences, alors qui s'exprime par, concernant les sciences, le socle commun de connaissances et de compétences, l'enseignement intégré de sciences et technologies, on va voir à chaque fois comment ce contexte est pris en charge. Et puis, je voulais quand même vous dire un mot sur les standards. Les standards au niveau international, en particulier les standards en sciences, c'est-à-dire les visées de résultats des élèves. Le socle commun de étant une forme, même si ce n'est pas exprimé en termes de standard, mais étant l'expression française de standard, hein, c'est-à-dire de ce que les élèves doivent maîtriser à un certain niveau de formation. Donc, je vais simplement, sans redévelopper, si vous voulez, je reviendrai dessus si ça vous semble important. Vous présentez quand même du coup les standards concernant les États-Unis et la Suisse, parce que pour ça dans les sciences, et par rapport à ce que l'on a un petit peu réfléchi hier par rapport à l'investigation, ça peut être intéressant. Les standards américains, donc ça a été les premiers à développer ces standards, quand vous allez sur les sites américains, alors il y a les standards nationaux ça date des années 60, hein, donc c'est la poursuite de la... Et ça vient de... On ne laisse aucun élève sur le côté. Hein, donc, non seulement une nationatrice, c'est parti à la fois, il faut que les résultats scientifiques des élèves américains restent pertinents par rapport à la compétition mondiale, mais il ne faut pas non plus laisser aucun élève sur le côté et hors de certaines compétences. Hein. Il y a cette double tension. À la fois, tension d'excellence de résultats à atteindre concernant les sciences, et puis tension de ne pas exclure. Donc on a, vous voyez, d'une manière ou d'une autre concernant l'éducation scientifique, mais par rapport au domaine aussi, on a cette double tension à pouvoir réfléchir, c'est-à-dire ne pas laisser permettre une culture scientifique pour tous, et puis un ensemble de maîtrise de compétences, et puis pouvoir envisager pour certains élèves d'avoir un bon taux de prolongement d'études en sciences et techniques. Donc, du coup, comment penser ces deux choses à la fois? Alors, au niveau des États-Unis, donc, ils ont effectivement des standards nationaux qui sont, puisqu'au niveau de chaque État, après, on fait ce qu'il veut. Hein, parce qu'il y a quand même, après, une grande liberté, y compris des enseignants, dans la mise en œuvre des curriculums. Voilà, je vais passer. Alors, au niveau de la Suisse, c'est les deux exemples que je vais vous prendre. C'est intéressant pour la Suisse parce que c'est un autre État fédéral où là, c'est le contraire. Ils veulent créer des standards qui vont avoir pour but d'avoir un cadre commun. Vous voyez, par rapport à la France, d'une certaine façon, c'est un pays qui est centralisé et d'une certaine façon, on a un socle commun, on a des programmes nationaux. Et puis, on a une volonté un peu de donner un petit peu plus de souplesse au niveau des régions, au niveau des établissements, via par exemple les expérimentations article 34. Hein, c'est-à-dire qu'on veut développer, on a les cadres nationaux et comment dans ce cadre national, on veut développer, inciter un peu plus de souplesse pour pouvoir s'adapter aux contextes locaux, aux élèves, etc. Hein. En Suisse, on part d'un système éducatif qui est morcelé, qui n'est pas du tout unifié, et là, via la création d'un genre de national curriculum, même si ce n'est pas le nom, puisque là, donc, ARMOS, ils veulent arriver à pouvoir unifier un ensemble du système éducatif entre les différents cantons. Voilà. Et avec, ici, alors, le pilotage, c'est venu PISA. Hein. Il faut bien voir les conséquences de PISA qui a eu en Allemagne et en Suisse, puisqu'en fait, ils n'ont pas eu de bons résultats. Il y a eu une réaction très forte, donc du coup, de suivi des performances de l'école et des performances des élèves de manière très forte. En France, ça s'est moins senti, si je puis dire, mais ça va ressortir. C'est-à-dire que PISA, dans certains pays, ça a été le coup de... Et donc, l'importance que je vous dis de pilotage par les résultats, c'est-à-dire au niveau des enseignants, au niveau des chefs d'établissement, au niveau des académies, fournir des outils pour pouvoir suivre les performances des élèves et pouvoir, s'il y a quelque chose qui ne va pas, réagir très vite, réguler, etc. Et ça fera partie de l'évaluation des acteurs. C'est-à-dire, dans l'évaluation des acteurs, ce sera, d'une certaine façon, leur capacité de réguler les résultats des élèves qui prendra de plus en plus d'importance. Bon, peut-être que... Alors, en France, pour en France, si vous voulez, le changement, c'est sur par rapport au socle commun. Alors, par rapport au socle commun, il y a eu socle commun et la réécriture des programmes par rapport à socle commun. Mais, quelque part, on sent que c'est un état intermédiaire. C'est-à-dire que, quelque part, sans doute, je vous dis, compétence prendra de plus en plus d'importance et donc à pouvoir travailler sur, pouvoir articuler à la fois des situations d'apprentissage qui permettent le développement de compétences et la structuration de connaissances. Enfin, donc, et par rapport à ça, il y a sans doute de l'élaboration intellectuelle, des ressources, des outils et puis de la formation à prévoir. Bon... Là, c'est peut-être pas la peine. Alors, quelque chose qui est important et que moi, je n'avais pas compris, je vous le dis, donc peut-être que c'est pour ça que je trouve que c'est important, peut-être que, je ne sais pas si vous l'avez bien perçu au départ, c'est qu'en plus, dans le socle commun de connaissances, il n'y a aucune compensation entre les piliers. C'est-à-dire que tous les piliers doivent pouvoir être validés. Et on a aussi des ambiguïtés. Hier, on a un peu évoqué, c'est-à-dire que quand on lit les textes, toutes les disciplines contribuent aux piliers. Hein, donc, alors peut-être avec des priorités, mais on a aussi cette ambiguïté que tout le monde est concerné, mais alors du coup c'est une façon de déresponsabiliser. Si on dit tout le monde est concerné, vous contribuez tous aux 7 piliers, et puis après tous les piliers doivent être validés, donc comment vous débrouillez avec ça? Pour le moment, c'est renvoyé à la responsabilité de l'établissement et à la responsabilité des élèves, des enseignants. Hein, mais on ne donne pas beaucoup d'outils, par exemple à la fois d'outils intellectuels, conceptuel pour pouvoir travailler et puis d'outils pratiques. Or, vous avez bien rendu compte hier que c'est pas si évident que ça de travailler ensemble parce qu'on a des postures différentes, on a des façons de problématiser, on a des habitudes qui sont intéressants et donc voilà. Nous, ça c'est un petit peu pour anticiper ce que Bernard Darlé et moi on vous dira, c'est-à-dire que nous au niveau de notre analyse, on a essayé de voir qu'est-ce qui changeait dans le fait de devoir travailler ensemble dans l'EIST. Ça ne peut pas reposer simplement sur la bonne volonté des personnes. Hein. Concernant les cadres conceptuels, alors, ils sont redéveloppés. Je vous ai dit, par rapport à l'investigation, l'investigation n'a pas tout à fait la même, on en a un peu dit hier, n'a pas tout à fait la même signification aux États-Unis et en Suisse. Et en France. Hein. En France, on a souvent la démarche d'investigation telle que je vous l'ai un petit peu discuté hier. En France, aux États-Unis, la référence c'est inquiry en termes de méthode, mais beaucoup plus large que investigation telle qu'elle est référée en France et qui est plus des points de repère pédagogiques, puisque avec une idée de diversité dans les mises en œuvre des différents champs disciplinaires. Et puis, effectivement, je vous ai dit, aux États-Unis, l'enseignant est très libre. Il est à la fois libre, mais responsable d'une forme de curriculum plus ouvert et qu'il peut adapter. Hein. Puisque l'important, c'est le résultat. C'est un peu comme l'Angleterre qu'on disait. Quelque part, c'est vous faites ce que vous voulez. Nous, ce qu'on voit, c'est à la fin ce que les élèves ont appris. Mais entre les deux, c'est pas mon problème. Voilà, le système éducatif est un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est ce qui sort du système. Attendez, je vais peut-être revenir pour voilà. Oups. Alors voilà, donc du coup, voilà concernant les sciences au niveau des standards américains qui doivent aider à construire un curriculum de scolarité obligatoire dans les différents États. Donc vous voyez comment c'est présenté. C'est pas présenté en domaine disciplinaire, c'est présenté en termes de domaine ou thématique. Donc compréhension des concepts et des processus en sciences et d'une manière unifiée. La science comme investigation, alors les sciences de la matière, les sciences du vivant, qui sont des domaines, les domaines terre et espace, sciences et technologies, et c'est rassemblé, sciences en tant que développement personnel et perspective sociale, et puis histoire et nature des sciences. Voilà, tels que les domaines scientifiques sont prévus dans les standards américains. Après, je vous dis, chaque État redéveloppe, reprend, etc. Vous voyez que c'est... Il y a des champs sur lesquels... en France, c'est différent, puisqu'on on a des disciplines, et éventuellement, certaines disciplines reprennent des éléments partiels de ces thématiques. Donc, vous voyez ici, la structuration est différente. En Suisse, ce qui est prévu, c'est... des perspectives de scientific literacy à travers différents domaines d'études. Pareil, on retrouve des domaines d'études concernant le vivant, la matière, les objets, la technique. Je vous ai dit, tout ce qui est géologie est absente en Suisse. Ils n'en font absolument pas. Hein? Bon, et c'est une perspective de scientific literacy, culture scientifique. Voilà. Et puis les compétences sont mises en avant. Dans les termes capacité, aptitude cognitive dont l'individu dispose, qu'il peut acquérir pour résoudre des problèmes précis. Il faut comprendre, hein. ainsi que les dispositions motivationnelles, volutives et sociales qui s'y rattachent pour pouvoir utiliser avec succès et responsabilité les résolutions de problèmes dans des situations variables. Donc, on revoit un ensemble de connaissances, d'aptitudes, les réseaux de pulsions de problèmes et situations. Bon, c'est dit dans des termes, effectivement, il faut comprendre. Il faut déjà être très compétent pour pouvoir comprendre les... Voilà. Et puis voilà, donc un aspect des compétences. Voilà. Et donc ici, alors c'est drôle parce que ça part sur des grandes perspectives et puis après, quelque part, on revient au niveau des évaluations, des sous-compétences. Et on a une difficulté un petit peu après... À gérer les compétences de leur ensemble. Et quelque part, on voit bien qu'il y a une tendance après à reclasser en petit, hein, par rapport au document que le collègue a apporté, hein, que tu as apporté. On retrouve cette difficulté de comment dépasser, de ne pas arriver à des objectifs, quoi, de vraiment rester sur des compétences.
Transversale et générale.
Transversale et générale, voilà. Bon, voilà. Donc, en France, et ça sera ma dernière disposition, donc, les compétences qui sont prises en termes d'articulation de connaissances, capacités et attitudes, hein, donc, c'est pas en termes de gérer une complexité, c'est déjà un autre terme. Donc, il faut se méfier des mots. Hein, c'est pas tout à fait la même chose qui est désignée. Et c'est pas forcément la même chose qui est désignée dans les textes et dans la façon dont les acteurs s'en emparent, dans les différents acteurs du système éducatif. Hein. Contribution à une représentation globale et cohérente du monde. Donc, est-ce que c'est aussi une forme de scientific literacy, ce vers quoi on veut aller? Et puis, démarche d'investigation, j'y reviens pas, ce que l'on a un petit peu discuté hier, un principe d'unité dans les principes pédagogiques et un principe de diversité dans les mises en œuvre des différents domaines. Voilà. Bon, alors, détention. Alors, des tensions, parce qu'on est, dès qu'on est dans des périodes de changement, il y a aussi des difficultés, il y a des résistances, mais qui ne sont pas dues à des mauvaises volontés d'acteurs. C'est que, qu'est-ce que ça signifie aussi, des résistances, hein? C'est-à-dire que c'est peut-être aussi des contraintes, des mises en œuvre, après, au niveau de ce que peut produire vraiment, de ce que les acteurs, la façon dont les acteurs peuvent s'en emparer, de ce qu'ils peuvent mettre en œuvre dans les classes. Donc, au niveau des tensions, est-ce qu'on est au niveau de standards à atteindre ou des contenus d'apprentissage? Contenu, c'est ça, au sens, pas simplement des connaissances, hein, des contenus mais des contenus avec une perspective plus didactique. Vous voyez qu'on a quand même pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même tension si on considère des contenus d'apprentissage ou des standards à atteindre. Et des standards à atteindre pour qui? Est-ce que c'est tous les élèves? Est-ce que c'est des standards moyens pour des élèves moyens? Ça a des conséquences sur les dispositifs d'enseignement. Donc, est-ce que ce sont les fondements ou les programmes? Est-ce que c'est du coup la place de l'évaluation aussi, est-ce que c'est les évaluations pour les apprentissages ou est-ce que l'on doit régulièrement évaluer des performances? Tension aussi concernant les méthodes et les contenus, est-ce que l'on envisage des intégrations? Est-ce qu'il faut parfois désintégrer, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être parfois déconstruire pour pouvoir reconstruire autre chose, hein? C'est-à-dire que parfois, d'être sur quelque chose très construit au départ, c'est difficile après de pouvoir... On reste tout le temps sur les adaptations à la marge, hein? Et des adaptations à la marge, c'est pas forcément satisfaisant. Donc si vraiment il y a un enjeu important, peut-être qu'il vaut mieux déconstruire pour reconstruire autre chose que d'essayer de trouver des adaptations à la marge. Voilà. Donc pour débattre, et c'est... ça me servira de transition. Comment, avec le socle commun, donc au-delà de l'IST, les questions quand même, du coup, articulation d'activité scolaire, les situations, les structurations de connaissances et le développement de compétences, pouvoir gérer ces tensions. Et puis, l'évolution des professionnalités enseignantes sous double, à la fois en termes de spécialité, est-ce qu'il va y avoir une évolution de spécialité, et en termes de métier, c'est-à-dire que dans le métier enseignant, sans doute que le cœur du métier restera l'enseignement et les apprentissages des élèves dans la classe, mais qu'il y a toutes des dimensions, en particulier éducatives, on voit bien qu'ils se mettent de plus en plus en place, et qui sur le travail collectif, sur le travail collaboratif, sur tout ce qui va se passer au niveau de l'établissement, voilà. Peut-être, intéresse peut-être moins la didactique directement, mais qui fera partie du cœur du métier aussi de l'enseignant, avec des responsabilités de suivre des élèves sur l'orientation, de relations avec les parents, etc. Voilà.